Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'ombre du festival, le podcast d'entretien cannois de Criticat. Et en cette fin de festival, j'avais envie de revenir sur un film qui est passé en fin de semaine dernière et qui me trotte un peu dans la tête, qui est un des films que j'avais le plus envie de voir avant, qui est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Et devant le film, j'ai directement pensé à faire cet entretien, puisqu'il est évidemment question dans le film du tournage d'À bout de souffle, mais aussi de la Nouvelle Vague en général et ses différents satellites. Et donc, bien sûr, on y voit des membres des Cahiers du cinéma de l'époque, et on y voit même le bureau des Cahiers du cinéma de l'époque. Et donc, il me semblait naturel d'inviter pour en parler quelqu'un des Cahiers du cinéma actuel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Bonjour Marcos.
Bonjour. Bonjour Marin.
Alors, on a été, je dois dire, assez partagé sur le film à Criticat. Moi, je fais plutôt partie des gens qui aiment, mais c'est vrai qu'il y a eu des personnes dans la revue qui ont eu plusieurs réserves, à commencer par l'idée que voilà, ce serait un film plutôt de magazine, quoi, de l'image de Godard, le côté un peu papier glacé du film. Mais de mon côté, je dois dire que j'ai été très surpris. Ce qui m'a le plus surpris, je crois, parce qu'on en parlait de loin comme un film sur À bout de souffle, sur le tournage d'À bout de souffle, réalisé un peu à la manière de, alors qu'en fait, c'est un film extrêmement sobre d'une certaine manière. Et voilà, je voulais savoir ce que tu avais pensé du film. J'ai lu ton petit texte et il commence d'ailleurs par un léger avertissement aux puristes godardiens. Voilà, il faut un peu se détacher de ça. Donc, je te laisse en parler.
Oui, c'est un film aussi que j'attendais beaucoup, mais avec une certaine crainte. J'avais même assisté à une partie du tournage, de toute la scène qui se passe dans les bureaux des Cahiers reconstitués. On avait fait un reportage là-dessus. On avait reçu Linklater dans les bureaux des Cahiers pour en parler avec lui. Donc il y a immédiatement une sorte de un petit côté film de famille, quoi, pour les, et en même temps bien sûr ça crée une crainte malgré la confiance qu'on fait à Linklater, qui à mon avis est un cinéaste qui a rarement raté des films. Et notamment ce qui me faisait peur sur le tournage, c'était le jeu des ressemblances qui marche plus ou moins selon les cas.
Et des comédiens.
Et peut-être qu'il irait avec ce côté à la manière d'eux qu'avait un peu annoncé Linklater. Alors je trouve effectivement heureusement c'est pas un film à la manière d'eux, il essaie pas de se prendre pour Godard ou encore moins de le pasticher. Et il y a une sorte de sobriété où effectivement on voit que ce qui l'intéresse chez Godard il opère comme font les bons cinéastes de biopic à la Milos Forman, c'est-à-dire qu'il fait un film sur Godard ou sur ce moment de la vie de Godard pour une question précise qui l'intéresse, une seule chose à mon avis, qui est, pour le dire très vite, un grand sujet du cinéma de Linklater, qui est la jeunesse. Et donc c'est prendre Godard à ce moment de sa jeunesse où il n'est pas encore un mythe. Et à travers lui, à travers le tournage du film... Montrer cette espèce d'énergie de la jeunesse avec sa part de désinvolture qui pourrait définir le Godard de l'époque ou la nouvelle vague.
Oui, c'est vrai, sur cette désinvolture, moi j'ai eu le sentiment d'un film qui était à la fois une démystification et une glorification, et plutôt qu'en fait la partie glorifiée, parce qu'on sent vraiment un cinéaste amoureux de son sujet, passait précisément par la démystification. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde le film, que la beauté d'À bout de souffle, quelque part, est un accident, parce que voilà, on voit la désinvolture de Godard qui tourne très peu et qui tourne des choses qui ont l'air complètement... banal, et où on dirait que tout ce qu'il y a de plus saugrenu dans À bout de souffle, qui viendrait par exemple du jeu des acteurs, pour Linklater, c'est un peu les acteurs qui se rebellent à l'intérieur du système godardien, qui n'ont même pas eu de direction et qui vont faire qui n'ont pas toujours de direction. Je pense par exemple juste Godard qui dirige Belmondo pour rentrer dans une cabine téléphonique, qui lui dit juste des choses très terre-à-terre, très prosaïques, mais c'est Belmondo qui lui-même va trouver une forme d'exagération totale dans ses gestes, qui fait partie aussi des raisons pour lesquelles on aime À bout de souffle. Et j'ai été surpris par c'était pas vraiment un film sur un génie, c'est ça qui m'a surpris.
Ben, je crois qu'il y a deux choses. Dans cette désinvolture, ça dit quand même quelque chose de Godard. Par exemple, la façon qu'avait Godard de dire les dialogues en direct, parfois dans une oreillette aux acteurs, et qu'ils les disent juste après lui. Le film montre ça, donc il y a quand même des petites choses sur la méthode, entre guillemets, Godard. Et je crois surtout que par rapport à la question du génie, Et ce qui fait la superficialité du film, parce que je pense que c'est un film superficiel, et peut-être tant mieux, il n'a pas essayé de faire un film profond sur Godard, c'est qu'il y a une certaine manière, une façon de dire, le génie est pas visible, enfin, on ne peut pas le cerner par un film. Et que peut-être la beauté du film, c'est qu'on sait le génie de Godard, on sait qu'À bout de souffle va être un film révolutionnaire, que c'est devenu quasiment un classique depuis. Mais on le saisit ici par l'autre bout, c'est-à-dire celui de sa fabrication désinvolte. Et donc il ne s'agit pas de relier les deux choses, c'est-à-dire comment une œuvre géniale naît comme ça. Je pense qu'il prend le parti du fait que c'est insaisissable, que ce n'est pas ça que peut saisir un film sur À bout de souffle ou sur Godard. Et du coup, d'où cette légèreté et même cette superficialité qui est, à mon avis, moins de papier glacé, qui est plutôt de l'idée de faire une sorte de comédie, simplement.
Oui, et la comédie naît de moments vraiment sourcés. Enfin, on a aussi la sensation, moi j'ai eu la sensation d'un film vraiment bibliographique, où il va y avoir de nombreuses citations de Godard, où il va y avoir, même pour les cinéphiles fétichistes, c'est très... sucré comme film, si on peut dire. Je sais que Josué Morel, qui a écrit le texte dans Criticat, il parle de ce moment où d'un coup il va y avoir un insert sur Rossellini qui prend des sandwichs en passant dans les cahiers du cinéma. Voilà cette petite référence pour les puristes qui savent que Rossellini était gourmand, quasiment boulimique. Et il va pratiquement y avoir rien d'autre, et c'est assez étonnant comme le film choisit de ne pas du tout fictionnaliser. Ou presque pas, mais quelque part j'ai quand même eu la sensation, parce que il y a tous ces moments où même il légitime un peu ce côté bibliographique par la reproduction des photos de tournage qui est un peu, j'imagine, la source première. On voit plusieurs reprises le photographe de plateau prendre des photos et Godard poser, etc. Mais j'ai eu la sensation que peut-être ce qui était le plus beau dans le film, c'était quand il se permettait, mais très 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 légèrement, de fictionnaliser. C'est-à-dire, ça va être, un dialogue entre Belmondo et Gene Seberg, dont on ne sait rien. Je ne sais pas trop ce qu'il y a, en fait, exactement ce qui relève du fictionnel, parce que j'ai lu pas mal de choses sur la période, mais là, j'imagine que c'est vraiment, parfois, au geste près. Je ne sais pas ce que tu penses de cet aspect vraiment uniquement très historique et historiciste même du film.
Je pense qu'il est très très documenté, effectivement. Les dialogues sont constitués de beaucoup de citations de Godard. Par ailleurs, oui, c'est énormément documenté. Effectivement, je crois qu'une des sources principales, ce sont les photos de tournage, Raymond Cochetier. Et d'ailleurs, il y a une scène, quand j'avais rencontré Linklater, qui m'a parlé du film, il y a une scène dont il était assez fier, c'est celle où il filme l'accident de scooter. Parce que dans le film, on ne voit que Belmondo passer devant le type qui est par terre. Et non seulement il avait découvert, grâce aux photos de tournage, qu'il y avait eu un vrai cascadeur et tout un truc que Godard avait coupé. Et qu'en plus, selon lui, c'est à vérifier, c'était Rivette, le figurant par terre. Donc ça fait partie des choses documentées, historiques, que le film, dont il se nourrit, et même dont il est assez content, disons, ce serait presque un peu les révélations historiques du film. Mais par ailleurs, il y a la part de comédie ou de désinvolture, moi, que j'aime bien, ou de démystification, consiste à ne pas considérer la matière historique comme quelque chose de sérieux. Et plutôt tout ramener vers une forme de vitalité ou de désinvolture. Même avec Rossellini, effectivement, il y a la gourmandise, il y a le rapport de Rossellini à l'argent, parce qu'il y a aussi une scène où, juste après, il demande de l'argent à Godard. On voit aussi Godard piquer dans les caisses. Et ça, on sait que Rossellini avait un rapport à l'argent comme ça, que Godard piquait des trucs dans les poches ou dans les caisses. Et il montre ça parce que, je trouve que ça fait partie de... C'est des traits à la fois presque de comédie et qui vont... qui cassent un peu le mythe, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Godard, de quelqu'un qui serait, un penseur très sérieux et très... D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu qu'en Italie, il y avait des critiques italiens qui étaient assez choqués par la façon dont Rossellini représentait justement...
Chacun a un peu sa chapelle.
C'est un peu la chapelle rossellinienne qui est un peu choquée. Et je trouve que ce mélange entre... quelque chose de très très documenté d'une certaine manière très sérieux dans son travail de documentation, et en même temps de traiter ça avec des involtures, pour moi c'est ce qui fait l'intérêt du film, quoi.
Moi, ma limite à partir de ça serait que en fait je de loin, voilà, c'est une comédie légère, c'est un peu la nouvelle vague en colonie de vacances, et ça c'est évidemment extrêmement linklaterien. Et moi, avant de voir le film, j'avais l'espoir, en revoyant il y a peu Everybody Wants Some, qui est mon Linklater préféré, que potentiellement il allait adapter le système d'Everybody Wants Some, c'est-à-dire voilà, les hommes entre eux qui se chahutent plus ou moins, la nouvelle vague. Et il y a un peu de ça, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il est aussi enfermé dans ce système historique, dans le sens où à partir du moment où le tournage commence, donc il va y avoir les jours qui s'inscrivent à l'écran, et il va y avoir assez peu de scènes qui durent de blocs de durée, ce qui est aussi quelque chose que peut faire Linklater. Et donc c'est vrai que j'étais un peu surpris, certes par la sobriété du film, mais j'ai eu la sensation qu'il y avait quand même quelque chose de pas réglé sur le côté routinier au bout d'un moment, où j'étais bien dans le film, mais voilà, il me surprenait plus trop, et il y avait quand même, j'avais pas envie que le film soit un pastiche d'un bout de souffle de son énergie, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de, que le film quelque part enfilait ses pantoufles au bout d'un moment, et que je trouvais ça un peu paradoxal. Je sais pas si
là où je suis d'accord, c'est que et qu'il y avait pour moi une limite du film, c'est que c'est quand même surtout Godard qui fonctionne, c'est-à-dire que le rapport avec les autres, même si on voit un peu plus Truffaut, ce qui se passe avec le côté bande comme ça passe pas très, c'est pas très réussi, on sent que alors que c'est un cinéaste qui peut faire des films de bande, justement, et que là, surtout ce qu'il filme, c'est la singularité de Godard au milieu de tout ça.
Et c'est l'acteur le plus convaincant, Guillaume Marbeck.
Oui, je trouve. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les autres sont parfois un peu des faire-valoir, ou en tout cas. Et je dirais même ça d'ailleurs de Gene Seberg, parce que moi, c'est peut-être une des choses que chose que j'aime le moins dans le film, c'est ce qu'il fait de Gene Seberg. Alors je pense que ça doit être vraiment que Gene Seberg effectivement n'avait pas, probablement pas compris là où elle était et mal vécu la chose, mais peut-être c'est pas ça qui me gêne, c'est peut-être qu'il justement il en fasse un personnage très sérieux et qui vit dramatiquement la chose, alors que tous les autres sont dans une sorte de légèreté, et que je trouve que c'est un peu injuste vis-à-vis du personnage, et un peu plus convenu du coup. Je me disais aussi que c'est peut-être parce que c'est un cinéaste américain qui rend hommage à une certaine manière de faire française, et qu'il est d'autant plus critique avec celle qui vient d'Hollywood et qui ne s'insère pas dans ce système-là. Et pour moi, il y a un truc qui
sans doute. Après, il lui laisse quand même la dernière scène du tournage où il montre, je ne sais pas à quel point c'est vrai, ça, là, mes connaissances historiques s'arrêtent là, que c'est elle qui trouve cet ultime geste du « c'est quoi dégueulasse » sur ses propres lèvres. Et d'ailleurs, ensuite, quand il y a la projection du film, pour la projection privée du film, en off, on entend le son du vrai film, mais ensuite, quand il montre l'écran, il montre cette scène rejouée par Gene Seberg. Donc ce serait peut-être la porte de sortie effectivement un peu plus heureuse pour un personnage peut-être effectivement légèrement maltraité. Mais c'est vrai que sur cette question du cinéaste américain qui fait un film sur la nouvelle vague, j'ai quand même eu cette sensation effectivement d'une vraie cinéphilie américaine qui, bon, voilà, c'est toujours un peu la même période de Godard qui est mise en avant, bien sûr, et aussi avec cette idée que, voilà, je pense, c'est ça, par exemple Tarantino qui a nommé sa boîte de production Bande à part, voilà, c'est un certain type de Godard qui fascine les Américains. J'étais un peu déçu que le film se termine sur un arrêt sur image de Godard et Truffaut qui renvoyait vraiment, je trouve, à une mythologie américaine qui est cette opposition assez factice entre Godard et Truffaut. Voilà, là où le film échappait plutôt à ça ailleurs, en montrant une relation entre ces deux pas si amicale, enfin assez réservée, mine de rien.
Ouais, je trouve que c'est assez juste ce qui monte sur les rapports Truffaut et Godard, j'ai l'impression. Où justement, effectivement, ils ne jouent pas sur une apparente opposition. C'est là où quelque chose de bande pourrait, de film de bande pourrait passer. Dans ce que tu disais, attends, j'ai perdu le fil, un truc.
Sur Godard-Truffaut, l'arrêt sur image finale, je ne sais pas. La projection. Après, dans ce que je l'ai dit, si je peux rebondir là-dessus, la plus belle scène du film, pourtant, donc je me contredis un peu, mais c'est pas grave, c'est pour moi quand Godard va assister à la première des 400 coups à Cannes, où il y a, voilà, le film, la mise en scène est assez sobre, mais là il y a quelque chose d'un peu plus travaillé avec le reflet des lunettes de Godard, où on voit la dernière scène des 400 coups en reflet sur son regard, et puis voilà une manière assez humble d'applaudir mine de rien, voilà, parce qu'on sent effectivement, il montre ça, le cinéaste un peu jaloux de tous ses amis qui tournent avant lui, et en même temps il y a ce côté un peu pur où il est caché parmi la foule et où il applaudit son ami. Ça, je dois dire que c'était c'est un peu le moment qui m'a bouleversé dans le
film.
Oui,
avec cette idée très belle du reflet du dernier plan sur ses lunettes. Et je pense que c'est ce moment où Godard, effectivement, est encore très proche de Truffaut. Godard a besoin de se fâcher avec les gens. Et que là, il montre ce moment où il est... c'est juste, finalement, très vite, la bande va un peu se dissoudre. Chacun va faire ses films. Mais cette scène est belle. Oui, ce à quoi je pensais tout à l'heure quand tu parlais du regard américain, je pense effectivement qu'il y a une idéalisation totale de ça. Mais bon, c'est fait pour ça, disons aussi l'histoire et les mythes, c'est-à-dire pour si ça peut se transmettre aussi dans une forme d'idéalisation. Et je me disais que c'est un film, très bêtement, hein, je me disais, mais peut-être qu'un adolescent qui verrait ça se dira, ben, plus tard, je vais être Godard, je veux faire quelque chose comme ça. Et rien que ça, je trouve ça assez touchant qu'un film, en ce sens, c'est l'antithèse du Redoutable, qui était un film vraiment à charge sur Godard, qui se foutait un peu de sa gueule. Et là, c'est un film vraiment qui dit non, il y a une sorte d'idéal de la jeunesse là-dedans. Et donc forcément le film l'idéalise. En même temps, il l'idéalise par la comédie, et donc confit, quoi.
Parce que Godard n'est jamais vraiment méchant dans le film, alors qu'on sait qu'il a pu être dur. Et effectivement, c'est plus montré sous la forme d'une drôlerie, les moments où il fait des caprices, où il vole dans les caisses, etc. Et du coup, je voulais savoir. Donc je disais, nous, on est un peu partagé à Criticat, mais qu'en est-il, donc toi tu aimes plutôt le film, qu'en est-il des autres membres des Cahiers qui ont vu le film à Cannes?
Au Cahier, ça a plutôt plu, de manière générale. Il n'y a pas de contre, certains plus ou moins. Peut-être le reproche qui est le plus fait par ceux qui aiment un peu moins, même si personne n'est vraiment contre le film, c'est peut-être ce dont on parlait au début, c'est-à-dire la superficialité de la chose. C'est-à-dire à quoi bon. Pour un sujet si important, faire un film si superficiel et léger. Moi, j'aime bien que ce soit au fond, c'est pas du tout un grand film, mais que ce soit qu'il fasse de ça un petit film assez personnel.
En fait, je me rends compte en t'écoutant que la beauté des films de Linklater, c'est souvent des films avec quasiment pas de sujet, mais du coup qui sont très légers et beaux pour ça. Et là, il y a un sujet, mais il fait quand même un film léger, donc c'est assez surprenant là-dedans.
Tu te souviens sur Boyhood, qui est un film que j'adore, et les détracteurs de Boyhood disaient à quoi bon faire un film sur 12 ans si c'est pour filmer des choses aussi banales. Et en fait, je pense que c'est l'intérêt du film, que si quotidienne, si, c'est-à-dire ce que vit un enfant et un adolescent moyen, quoi, ses premiers émois, le divorce des parents. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il mettait 12 ans, un projet monumental, pour filmer des choses simples et quotidiennes. Et c'est vrai que là, il ramène Godard, il ramène... Donc peut-être plus qu'une démystification, ce serait le ramener, enfin ça va avec. Hein, ça
ramener à l'adolescence.
À l'adolescence, ou à la... Ouais. Et j'aime beaucoup, un des moments que je préfère, qui me met vraiment en joie, c'est le dernier plan, quand il tourne le dernier plan, où Belmondo court dans un champ. Et il dit, bon, le tournage est terminé. Il dit à Belmondo, continue à courir.
Il le laisse courir, oui.
Il le laisse courir, et puis il se marre. Il y a une sorte de joie du tournage. Je trouve ça très beau, ce moment. Et là, il y a un truc qui se confond entre... parce que moi, je trouve que c'est une des choses assez belles du film, dans le projet de Linklater, c'est-à-dire c'est de faire un film avec des jeunes acteurs et qui, pour la plupart, faisaient leur premier film. C'est-à-dire faire l'histoire d'un premier film avec des gens qui font eux-mêmes leur premier film. Et que ça passe, je trouve, notamment par l'acteur qui joue Godard. Le fait qu'on ne les connaisse pas, on ne sait pas du tout qui c'est, qu'il y a une sorte de fraîcheur là-dedans.
Je trouve le film... Bah, c'est vrai que quand on arrive à sortir du jeu des sept différences et de ses préférences Ah, je trouve que, voilà, je trouve que, je sais pas, Coutard est plus réussi que Truffaut, que sais-je, mais il faut un peu se sortir de là au bout d'un moment. Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a touché parfois, c'est soudain des apparitions un peu étranges, et à ce titre, le passage sur le tournage de Pickpocket,
Oui.
où l'acteur de Bresson, en fait, qui n'a pas une réplique dans le film, qui est silencieux, qui est vaguement ressemblant donc de l'acteur de Pickpocket, avait vraiment un visage singulier. Et ça, je sais pas, ça m'a beaucoup touché cette apparition.
Ah oui, de Martin Lassalle, l'acteur Pickpocket, là, c'est le plus ressemblant peut-être, et il est très troublant, ouais. Il est très troublant.
Bon, bah, merci beaucoup Marco. C'est
Ouais.
peut-être juste une question en général sur d'autres films que tu aurais vraiment aimé au festival pour l'instant.
Ben, j'ai beaucoup aimé des films pendant longtemps. Mes deux, enfin vraiment, je m'amusais à dire que mes deux préférés, c'était Mission Impossible et L'Aventura. Et j'ai beaucoup aimé aussi Laurent dans le vent, c'est un film présenté à l'ACID comme L'Aventura aussi. Vraiment
Dont les cinéastes
des.
ont été invités de ce
Ah
podcast.
bon, c'est des films formidables. Et dans la compétition, moi, je suis pas très. Vraiment, ce que je préfère pour l'instant, c'est le film de Kleber Mendoza. Qui m'a assez impressionné, où il y a des choses qui me font penser à Bellocchio, un peu comme ça. Alors que je suis. Pour l'instant, rien ne m'avait vraiment enthousiasmé. Je suis même très contre le film préféré de beaucoup de gens, mais qui
Oui, j'ai vu ta boule noire sur Sirat.
est. Oui. Autre sujet de débat.
Mais voilà, autre sujet de débat, mais on va en rester là sur ce sujet. Merci beaucoup, Marcos.
Ben, merci, Marin.